Bonjour et bienvenue dans l'Info C'est Clair. Le gouvernement sera annoncé dans la journée, annonce ce matin de l'Élysée, mais déjà des listes de noms circulent. L'Info C'est Clair est intitulé Gouvernement, les noms qui circulent. Nos invités, Rachel Binaf, vous êtes journaliste indépendante, Ève Roger, directrice adjointe de la rédaction du Parisien aujourd'hui en France, à lire dans le Parisien, Macron et Borne font durer le suspense, et puis Nathalie Saint-Cricq qui s'est perdue dans les couloirs de France Télévisions, mais qui va être là d'ici une minute, dès qu'on aura retrouvé le bon escalier. Alors, direction, tout de suite, on part à l'Élysée, où on va retrouver notre journaliste Muriel Rousselin. Muriel, puisqu'on a du nouveau depuis ce matin, et le nouveau, c'est que enfin le gouvernement devrait être, je garde le conditionnel, hein, devrait être annoncé dans la journée.
Oui, mais je me dis que peut-être qu'on pourrait faire, j'allais dire, sauter le conditionnel, puisque c'est une information qui émane de l'Élysée depuis à peu près 7 heures ce matin. Normalement, nous devrions connaître la composition du nouveau gouvernement cet après-midi, donc plus que quelques heures à patienter. Je sais que vous trépignez d'impatience. Alors, pourquoi cela a été si long? Eh bien, tout simplement parce qu'il a fallu faire un casting, pouvoir vérifier le passé, le patrimoine des différents candidats aux différents ministères, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème au niveau de leur patrimoine pour éviter d'éventuels conflits d'intérêts, parce que ce que veut éviter le gouvernement, c'est bien sûr que ce nouveau gouvernement commence par des polémiques. Donc Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont donc joué la montre, ils l'ont assuré et assumé. Ils veulent un gouvernement resserré avec un nombre équitable d'hommes et de femmes, un équilibre parfait politiquement. On verra si c'est le cas, ce qui est sûr normalement, si tout va bien. Donc, nouveau gouvernement, annonce du nouveau gouvernement cet après-midi et premier conseil des ministres lundi.
Mais on n'a pas l'heure, hein.
Non. Ah non, on n'a pas l'heure, je n'ai pas l'heure encore.
Bon, eh ben merci.
Ça ne saurait tarder, je sais que vous trépignez d'impatience.
On trépigne, mais dès que vous l'avez, vous nous l'annoncez. Hein. Merci beaucoup Muriel. Ève Roger, à l'instant Muriel disait, c'est un casting gouvernement. Alors, on sait qu'on veut un gouvernement resserré, en même temps elle parlait d'un casting. Bah, quand on a un casting, ça veut dire que quand on fait un gouvernement, il faut penser à être reconnaissant envers toutes les familles, il faut penser à des tas de paramètres qui font que...
Être reconnaissant, je ne sais pas si c'est le terme, disons qu'il
c'est
faut...
servir.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une majorité qui est composée de plusieurs composantes et qu'il faut que tout le monde soit effectivement servi. Il faut que... on a annoncé un renouveau, un Macron 2 qui ne ressemblait pas à Macron 1, donc il nous faut des têtes nouvelles aussi, et ça c'est très important. Et en même temps, c'est très difficile d'avoir des têtes nouvelles, parce que parfois, quand il y a des têtes nouvelles, on fait waouh le jour J, et puis à l'arrivée... ils se prennent les pieds dans le tapis, c'est compliqué. Vous voyez, il y avait Roselyne Bachelot qui était annoncée comme une belle surprise du chef, et puis à l'arrivée, ça n'a pas donné l'effet attendu, si vous voulez. Donc c'est un jeu subtil d'équilibre. C'est aussi ce qui prend énormément de temps aussi, c'est de définir les périmètres des ministères. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement économie et finances, Bercy, etc. Chaque gouvernement a ses périmètres, et ça donne aussi le pouvoir ou pas aux ministres. La planification et l'écologie qui est censée être le fer de lance de ce nouveau gouvernement, il faut créer trois ministères, il faut répartir ces trois ministères, il faut donner ou pas des administrations à ces ministères-là. Donc c'est ça qui est compliqué et c'est ça qui prend du temps.
Alors Rachel Binaf, est-ce qu'on a un premier indice? C'est Damien Abad qui a quitté hier la présidence du groupe LR à l'Assemblée, puisque Damien Abad est un républicain et il se met en congé du parti Les Républicains. Alors, est-ce que ça sent le Damien Abad au gouvernement, ça ?
On lui dit que non, enfin en tout cas il n'a pas d'annonce précise à faire sur le sujet, ce qui est tout à fait logique en termes de calendrier. Hein. Des calendriers, il faut attendre. Néanmoins, il avait déjà quitté quelque part le parti. Hein. Ça faisait déjà plusieurs mois que des tensions avaient lieu entre lui et le reste de l'équipe. Il se rapprochait de la Macronie. Hein. Il communiquait régulièrement avec eux. Donc rester aurait ressemblé à un mariage forcé quelque part. Donc c'est un cheminement logique par rapport aux positions qu'il a prises ces derniers mois. Ce rapprochement avec l'équipe d'Emmanuel Emmanuel Macron. Est-ce que, justement, il en sera remercié quelque part? Alors, un ministère ou un secrétariat, hein, ça peut être aussi ça, parce que c'est aussi des places qui sont chères. C'est quand même beaucoup d'appelés et peu d'élus. Il s'agit là, c'est le deuxième gouvernement, hein, donc il s'agit de remercier aussi. On n'est plus dans la dynamique de 2017 des têtes nouvelles issues de la société civile. On retourne un petit peu aux les noms d'ailleurs qui circulent en font écho, hein, aux politiques qu'on connaît déjà, qui sont déjà ancrées et que l'on va remercier ou pas avec différents ministères.
D'accord. Alors, Damien Abad pourrait... vous savez qu'il y a des listes qui circulent, des listes qui, au début, hier, Nathalie Moret disait, nous, les journalistes, on nous envoie des listes de gouvernements possibles et qui se retrouvent maintenant sur WhatsApp. Alors, on va en diffuser quelques-unes de ces listes. Et pourquoi j'en parle? C'est parce que sur l'une de ces listes, Damien Abad est donné au ministère de la Santé. Ève Roger, vous... Quel crédit accorder à ces listes? On en a mis une là.
Si on est ultra prudent, on peut dire qu'il ne faut accorder aucun crédit puisque ces listes circulent, y compris sur WhatsApp, alors que c'est censé être le secret le mieux gardé de la République. Donc je pense qu'on peut dire ça. Mais après, à l'intérieur, forcément, il y aura des personnes effectivement qui seront nommées. Donc c'est vrai que c'est compliqué. À Manier, le principal, enfin les journalistes disaient, ceux qui les mettaient hier sur WhatsApp, disaient on les met là, comme ça c'est une façon de vérifier, parce qu'après les gens vous appellent en démontant, par exemple. Donc c'est une façon aussi de vérifier que de les rendre public.
C'est un peu de bluff, de ballon d'essai.
Voilà, absolument.
Prise de température.
Oui, alors par exemple, l'essayiste dans ces listes, hein, il y en a plusieurs qui circulent. Rachel Kahn est imaginée au ministère de la Culture. Alors,
nous l'avions écrit à une époque, nous, dans le Parisien, donc je ne sais pas.
Et alors, il y en a qui sont flattés. Il y a Renaud Muselier qui, dans l'une des listes, est donné comme étant ministre. Alors, Renaud Muselier, qui est un ex-LR, un président de la région PACA, qui du coup, on va voir son tweet, il a démenti... vouloir être ministre de la Santé. Je tiens à remercier ceux qui me félicitent. Oui, parce que du coup, il a reçu des coups de fil de félicitations. Je tiens à remercier ceux qui me félicitent de mon entrée au gouvernement. C'est gentil, mais je rappelle que je ne souhaite pas devenir ministre. Nathalie Saint-Cricq, vous nous avez rejoint. Voilà. On parlait à l'instant de ce gouvernement. Est-ce qu'il y a des noms quand même qui circulent? Alors, ce matin, j'ai entendu que Gérald Darmanin et Bruno Le Maire devraient conserver leur poste. Est-ce qu'il y a des choses quand même
conserver, en tout cas, rester dans le gouvernement. Après, il y a manifestement des redécoupages. Darmanin devrait rester à l'intérieur et Bruno Le Maire devrait bouger en allant probablement à l'éducation. Enfin, ça, c'est ce qui circulait hier soir. Et puis, pour dire comme vous toutes, ou comme nous toutes, et tous et toutes, comme on dit, je pense qu'à un moment donné, ça devient fatigant parce que ça change toutes les heures. Alors, Julien de Normandie resterait, ça c'était encore hier soir, j'ai pas eu le temps ce matin de téléphoner. Et puis surtout, la grande misère, si j'ose dire, c'est tous les gens qui ne savent pas ce qu'ils vont faire. Enfin,
il y a des gens qui ne savent pas encore.
Qui ne savent pas. Il y en a qui, hier, n'avaient pas encore été appelés, ni pour rester, ni pour partir. Ah ouais. Alors, ce n'est pas très bon signe.
On le prend très mal quand on n'est pas reconduit à son ministère, où on se dit, ça y est, mon purgatoire est terminé, à moi mes week-ends, etc.
Ça dépend de chacun. Il y a des ministres, en effet, qui peuvent s'épuiser plus rapidement que d'autres, parce que c'est quand même un exercice extrêmement particulier. Certains, d'ailleurs, ont été approchés et ne sont pas, n'ont pas voulu.
Il y a des refus.
Oui, il y a des refus. Il y a des refus. Bien sûr, parce que encore une fois, hein, c'est un métier très particulier, très prenant, chronophage, surtout quand on est à des ministères clés. En fonction de l'âge, hein, aussi, il y a des on peut être plus ou moins carriériste, vouloir justement continuer à avoir d'autres ministères. Et puis, par exemple, Bruno Le Maire, puisqu'on le citait, en effet, son nom circule beaucoup pour le ministère de l'Éducation nationale. Mais il y a encore quelques jours, quelques semaines, il pouvait être pressenti au Quai d'Orsay. Et c'est quelque chose qui lui ferait peut-être aussi plaisir. Donc il y a des choix personnels, il y a parfois la volonté de s'arrêter là parce qu'on a fait un petit peu le tour, et puis du côté de Macron, la possibilité de remercier ou pas, rétrograder ou pas un ministre.
Moi je ne suis pas ministre et je ne m'appelle pas Rachel Kahn, mais pourquoi pas. Non, il y a aussi quand même une claque dans la figure, c'est-à-dire quelque chose d'assez humiliant. Je ne suis pas persuadée que Jean-Michel Blanquer soit content de quitter le gouvernement. Et
Il n'était pas très bien à l'éducation nationale.
Mais il pense qu'il a été injustement maltraité. D'ailleurs, il avait chargé Olivier Véran en disant...
Parce qu'on lui a reproché probablement sa mésentente avec un certain nombre de profs. On lui a reproché un certain nombre de choses durant la crise du Covid. Et probablement d'être trop en pointe sur la laïcité.
Et de ne pas avoir voulu participer aux élections régionales.
Voilà. Et en gros, de s'être mis un petit peu en retrait. Et comme Emmanuel Macron n'oublie jamais rien.
Ah ouais.
Jamais. Voilà, donc c'est plutôt, ça peut être un peu humiliant. Si Éric Dupond-Moretti sort, par exemple, ce qui a quand même l'air d'être hautement probable, c'est quand même pas la chose la plus sympathique de se faire...
C'est un accélérateur de carrière d'avoir été ministre ou justement c'est un frein parce qu'on dit « Ah, il y a des conflits d'intérêts, on veut pas de problème, vous êtes
marqué politiquement. » Encore une fois, c'est vraiment une question de génération. Vous voyez, il y a cette jeune génération, Jean-Baptiste Djebbari ou Cédric O, qui venaient du privé, qui étaient proches d'Emmanuel Macron, qui ont consacré 5 années à cette
mission.
Voilà, absolument. Et qui aujourd'hui reviennent dans le privé parce qu'on fait plus carrière non plus cette jeune génération. On ne reste pas 50 ans à la politique non plus.
Un mot sur le Quai d'Orsay quand même, parce que c'est vrai que Jean-Yves Le Drian abandonne le ministère des Affaires étrangères en pleine tempête internationale.
En étant sûr.
Plusieurs questions. Ah oui, en étant sûr, est-ce que je veux dire. Est-ce que ce n'est pas quand même abandonner le navire? Pourquoi est-ce qu'il abandonne le Quai d'Orsay?
Il l'abandonne.
Et quels sont les noms qui circulent pour le remplacer?
Alors d'abord... De ce que j'ai cru comprendre, il ne l'abandonne pas, puisqu'il avait déclaré être ouvert à toutes les possibilités.
Ah, donc il pourrait rester.
S'en remettre au président en disant soit je continue un petit peu, c'est-à-dire en gros, il passe l'été pour avoir du suivi dans le conflit qu'il y a en Ukraine. Mais à terme, il avait dit qu'il voulait s'arrêter, mais vous savez. Il y a beaucoup de gens qui veulent s'arrêter et qui repoussent toujours l'échéance. Ah. Donc en fait, il était beaucoup plus ambigu.
Une dernière tournée. Ça.
Donc ça, après, le chef de l'État, qui, c'est pas lui qui abandonne le navire, en tout cas, c'est le chef d'État. Ouais. Quant aux noms qui circulent, on a eu un peu de tout. Donc je ne sais pas, aux dernières nouvelles.
Un peu de tout. Alors justement, je voulais y revenir, moi, avec mes fameuses listes qu'on a diffusées.
Ah non, vous recommencez.
Je recommence avec ma fameuse liste. Il y avait Édouard Philippe. Sauf alors, que Edouard là où on voit que ces listes sont pipeaux, c'est qu'Édouard Philippe, il a démenti. Il a dit ça ne m'intéresse pas. On l'écoute, hein. Il était. Interviewé par nos confrères de Complément d'enquête. On écoute cet extrait.
Est-ce que vous, si Elisabeth Borne vous propose de devenir ministre, vous lui diriez oui ?
Moi, j'ai fait un petit peu plus de 3 ans Premier ministre. J'ai adoré ça. Je pense qu'il y a des phases dans la vie où on est dans l'action très intense, et puis il y a des phases dans la vie où on est dans la réflexion, dans l'apprentissage de nouveaux thèmes, de nouveaux sujets, de nouveaux endroits. Et moi, je suis plutôt dans cette phase-là.
Donc je traduis, hein. Si on vous propose d'être ministre, vous dites non.
Je suis plutôt bien là où je suis, je crois. Ouais. Je n'ai pas très, très envie de sortir de ce que je suis en train d'essayer de construire.
Donc ça veut dire non.
Oui, mais alors, écoutez, moi, je veux dire, on se parle là, on ne m'a rien proposé, et ça me va très bien.
On ne vous a pas proposé?
Non, non, rien.
Vous n'êtes pas vexé? Même si vous auriez dit non.
Pas du tout.
C'est un peu le jeu du ni non, ni non, vous voyez. Il dit jamais non. Il dit oui, peut-être, pourquoi pas.
En même temps, on a l'impression qu'il le livrait comme une rétrogradation. Il dit, moi, j'ai été ministre, je ne vais pas m'abaisser.
Disons qu'il a, là maintenant, son ambition, c'est plutôt 2027 et devenir président de la République. Ce n'est pas pour aller mettre les mains dans le cambouis pendant 2, 3, 4 ou 5 années avec Emmanuel Macron. Donc, à cette émission-là, il disait bien, je suis d'une fidélité absolue, d'une loyauté absolue, mais j'ai mon chemin à écrire et à faire.
Rachel Binas, ça va être le gros problème d'Emmanuel Macron, c'est ce genre d'attitude à la Édouard Philippe, de gens en fait qui ont en tête maintenant 2027, y compris d'ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres noms comme ça, d'autres personnalités dans la Macronie qui pensent déjà à la succession et à l'héritage d'Emmanuel Macron?
En effet, l'ambition d'Édouard Philippe, c'est aussi la raison de ces tensions avec Emmanuel Macron. Le torchon brûle depuis des mois. Ça ne s'est pas amélioré au moment de la gestion, de l'organisation, la détermination des circonscriptions pour Horizon. Certains ont trouvé dans l'entourage d'Emmanuel Macron que, quelque part, Édouard Philippe était assez gourmand, justement. Ce n'est pas le genre de personnalité qui plaît à Emmanuel Macron. Des gens comme ça, aux dents longues, aux ambitions affirmées et déclarées, il a tendance à mettre de la distance. Et pourtant, en effet, ce nombre va sûrement s'accroître. Ces candidats potentiels à 2027 qui voient plus loin, forcément, vont petit à petit se déclarer de manière plus ou moins implicite ou explicite.
Nathalie Saint-Cricq, il y a d'autres personnalités comme ça qu'il faudra veiller à neutraliser qu'ils exprimeraient des ambitions trop précoces.
C'est la principale, parce qu'honnêtement...
Bruno Le Maire, peut-être.
Bruno Le Maire, oui. C'est, lui, il y a toujours pensé, mais pour l'instant, Bruno Le Maire a été plutôt loyal à calmer ses ambitions à une époque, c'est vrai. Comme le disait Rachel, qui visait le Quai d'Orsay, là, il serait bien resté à Bercy, mais je pense que le redécoupage de Bercy... Ouais. en deux fait qu'il va avoir un ministère, qu'il aurait gardé un ministère.
Rabougri,
enfin, plus exactement, il aurait eu moins que ce qu'il avait avant, et il aurait beaucoup hésité avant de partir à l'éducation nationale, mais in fine, il se serait résolu. Donc il y a lui, il y a effectivement Édouard Philippe. Mais pour le reste, on n'a pas l'impression qu'il y ait énormément de... Comme je dirais, pour le pôle gauche de la Macronie, si tant est que ça existe, on n'a pas vu de gens dont on s'est dit à celui-là, il va falloir s'en méfier. Mmh. Oui, même Macron, Emmanuel Macron, on ne l'a pas senti venir longtemps à l'avance, mais 2 ans avant, on voyait quand même qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas n'importe qui et qu'il faudrait suivre de l'œil. Comme on voyait Sarko 6 ans avant. Comme François
Hollande
ne
s'en est pas méfié d'Emmanuel Macron.
Non, enfin, il ne s'en est pas méfié, non.
Tout le monde lui disait pourtant, il paraît. Hein.
Non, mais il était bluffé par Macron. Et il disait, est-ce que vous connaissez Emmanuel? Parce qu'il trouvait que c'était un type, il l'aimait spécialement, vraiment, il l'aimait beaucoup, il l'appréciait.
Et donc ça a été une brutale
touche écossaise. Oui, mais pour ça, tout le monde lui a dit. Mais c'est vrai que les nouveaux talents, en général, on les voit un peu avant. Enfin, on se dit, chez cet homme-là ou chez cette femme-là, il y a quelque chose. Donc là, j'ai pas l'impression que peut-être Gabriel Attal, mais ça sera pour dans longtemps.
Ce qui est intéressant, il faut quand même rappeler qu'Emmanuel Macron ne peut pas se représenter en 2027. Donc effectivement, la guerre de succession s'est ouverte le jour de sa réélection. Et la guerre de succession risque de parasiter le quinquennat. Et c'est ça, sans doute. Alors à la fois, j'imagine qu'Emmanuel Macron ne veut pas de successeur, parce qu'après moi, le déluge, comme beaucoup. Mais ça a aussi le risque de parasiter le quinquennat.
C'est Emmanuel Macron qui décide seul et il veut des ministres à sa botte. Il ne veut pas de forte tête. D'ailleurs, l'équilibre droite-gauche, finalement, est-ce qu'il importe ou, de toute façon, l'équilibre, c'est Emmanuel Macron qui...
Moi, je pense qu'il ne peut pas ne pas avoir des poids lourds, parce que ça, c'est un gouvernement qui va... Les turbulences, elles arrivent et elles vont être extrêmement violentes, que ce soit la négociation sur les retraites, que ce soit l'Assemblée. Quand vous imaginez NUP, même si NUP n'a pas la majorité, il y aura quand même peut-être 170 députés. Aujourd'hui, il y a 17 députés LFI. Hein. Donc, aujourd'hui, il y a à peu près 50 à gauche. Donc, ça va être une guérilla. Et donc, il faut des poids lourds, il faut des gens qui puissent répondre. Donc il ne peut pas se dire « je vais prendre que des ministres fallos », ce n'est pas possible. Mais il faut des gens fidèles, gens fidèles, il y en a un certain nombre.
Alors justement, des poids lourds pour animer cette équipe gouvernementale, eh bien, ce sera la première ministre, Elisabeth Borne, qui aura la charge de l'animer. Mais je vous propose d'écouter ce qu'en pense Cécile Duflo, donc l'ancienne ministre du Logement de François Hollande, l'écologiste, qui estime que oui... Elisabeth Borne est une excellente techno, mais c'est peut-être aussi sa faiblesse, c'est qu'elle n'est pas assez politique, peut-être qu'elle ne pèse pas assez sur les arbitrages qu'il faudrait pouvoir définir. On écoute Cécile Duflo.
Son profil, c'est celui d'une techno, tout le monde l'a dit. Qu'est-ce que c'est une techno, une haute fonctionnaire? C'est quelqu'un, et on l'a dit aussi, qui est loyal et qui est là pour servir à un projet politique. Et donc c'est pour ça que finalement, on pourrait se dire qu'il y a peu de surprises à l'avoir vu servir le projet politique de Lionel Jospin et celui d'Emmanuel Macron, qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Professionnellement, ça s'explique et c'est bien qu'il y ait des hauts fonctionnaires en France qui soient loyaux aux choix politiques.
Mais ça veut dire que maintenant, elle a une fonction politique.
Sauf que voilà, maintenant, elle a une fonction politique. Et la fonction politique essentielle d'une première ministre, c'est de faire les arbitrages et notamment de changer quelque chose qui est une sorte de constance générale, c'est-à-dire que le ou la ministre de l'écologie soit toujours contre-arbitrée par rapport à l'ensemble de ses collègues par Matignon.
Rachel Binas, est-ce qu'Emmanuel Macron a choisi Elisabeth Borne parce qu'au fond c'est une collaboratrice, comme aurait dit Nicolas Sarkozy, et efficace parce qu'elle maîtrise bien ses dossiers?
Bien
comme
sûr.
Vient de le rappeler Cécile Duflo.
Pour les mêmes raisons qu'il avait choisi également M. Castex. D'ailleurs, là, puisqu'on parle du prochain gouvernement, on fait fi de cette espèce d'illusion nécessaire qui est l'article 8 de la Constitution, selon lequel le président nomme, mais sur proposition du Premier ministre. On sait très bien.
On fait même plus semblant, là. On sait que c'est le président qui fait le casting.
Et c'est pas le premier, hein. Les autres avaient fonctionné ainsi, mais cette puissance, ce régime présidentiel est si fort qu'il a même choisi le directeur de cabinet de Madame Borne, alors qu'elle en avait un. Ça vous montre un petit peu quand même à quel point on quitte vraiment ce régime parlementaire pour un régime présidentiel vraiment, vraiment très marqué, très, très fort. Pour revenir à votre remarque, à votre question que j'ai oubliée.
Non, c'était sur sa principale qualité, c'est d'être une collaboratrice, mais ce qui range le Premier ministre non plus en chef de gouvernement, mais en exécutant des ordres du président.
C'est la suite logique de toute façon de cette dynamique-là que je vous décrivais et qui plaît aussi à Emmanuel Macron, qui va diriger lui-même. Et en effet, la sortie là de Cécile Duflot est intéressante parce que elle sait bien qu'en matière notamment d'écologie, c'est ça qu'elle pointe du doigt, sans vision politique de long terme, il va être très difficile d'être...
Il y a toujours une bonne raison de remettre à plus loin la hausse du prix du carburant, etc.
N'oublions pas que Mme Borne s'était exprimée plutôt en défaveur de la taxation du kérosène pour les avions, également de l'essence pour les frais de maritime. Donc tout ça n'est pas vraiment en sa faveur d'une planète planification écologique réussie, respectant les accords de Paris, le rapport du GIEC, etc.
Ève Roger, les premiers pas d'Elisabeth Borne depuis sa nomination à Matignon, sondage Odoxa, 57% des Français alors saluent la nomination d'une femme, comme si d'ailleurs ils n'avaient pas tellement d'idées ou ne connaissaient pas tellement Elisabeth Borne, mais bon, sur le principe, c'est bien que ce soit une femme.
Donc, je crois que ce matin, il y avait un sondage qui donnait la satisfaction. Alors, elle a moins de points que Jean Castex ou Édouard Philippe à leur nomination. Mais depuis quelques jours, moi, je trouve qu'on la retrouve sereine. Vous voyez, elle n'a pas l'air paniquée du tout par le poste.
Alors qu'Edouard Philippe avait reconnu avoir perdu 6 kilos dans la semaine qui précédait
son arrivée à Matignon. On sent une forme de solidité, de sérénité. Vous voyez tout ce qu'on dit, que c'est un bon petit soldat qui obéit aux ordres, etc. Ça a l'air de lui passer vraiment au-dessus de la tête. Et moi, je trouve que hier, son passage au Mureau, là, avec les jeunes gens, j'ai trouvé assez tranquille, assez sûre d'elle. Et finalement, peut-être que, encore on le dit souvent, mais c'est peut-être le poste qui fait la femme, en l'occurrence. Et je pense que ça va être le cas avec Elisabeth Borne.
Je pense qu'il faut pas juger trop vite. Oui. Parce qu'on ne peut pas avoir un tel caractère avec les bons côtés et les mauvais côtés que ça peut avoir, c'est-à-dire du caractère, y compris un caractère.
Vous parlez d'Elisabeth Borne.
Je parle d'Elisabeth Borne, qui est connue pour ça, et tout d'un coup la transformer en exécutante. Je pense que c'est quelqu'un qui a eu une vie d'abord, qui a une vie relativement difficile.
On peut en parler un peu, oui, c'est une ancienne pupille de la nation.
Son père qui a été déporté pendant la guerre, son père est rentré, son père s'est suicidé quand elle avait 11 ans. Ouais. Elle était avec sa sœur, ils avaient peu de moyens. C'est quelqu'un qui a dû se débrouiller, qui a été boursière. Donc, et en plus, elle n'en fait pas étalage, vous voyez. C'est-à-dire qu'on le sait maintenant, mais elle n'est pas comme certains,
elle le met pas en avant,
que je ne citerai pas, qui sont arrivés en disant « moi, ma mère faisait ça ».
Elle me faisait des ménages.
Voilà. Donc, relativement pudique sur ce genre de choses. Donc, je pense que c'est le signe d'une forme de caractère. Ouais. Je n'exclus même pas qu'il y ait une espèce de mode avec les journalistes, parce qu'on est un peu comme ça, qu'il y ait une espèce de borne mania dans les 3 mois et qu'après, on donnera, hein, parce que souvent c'est comme ça. Mais je pense qu'elle peut être surprenante. C'est-à-dire que notamment avec sa connaissance des syndicats, notamment qui disent qu'effectivement elle est très compétente, même parfois, mais parfois dure à manier, on ne peut pas exclure qu'à un moment donné elle dise à Macron, écoutez, monsieur le président, je suis pas d'accord. Y compris dans ce qu'on me dit, c'est qu'elle aurait refusé un ou deux ministres qui voulaient lui. Vous voyez, donc on va la découvrir.
Comme dirait sur la planification écologique.
On va la découvrir peut-être. Et il n'y a pas de raison qu'elle se mette à, comment dire, tout d'un coup, à obéir à tout.
Rachel Binas.
Nathalie Sécric a vraiment raison d'insister sur son histoire personnelle. Les médias, et j'en fais partie, on a trop mis en avant le fait que ce soit une femme, alors qu'il y a bien d'autres choses, justement, à raconter la concernant que son sexe. En effet, c'est une femme avec une histoire, c'est la réussite française, républicaine, comme on l'aime, et qui ne le met pas en avant, qui a une pudeur à l'égard de sa propre histoire, et pourtant, elle pourrait en faire un étendard, elle ne le fait pas.
Parce qu'elle a fait Polytechnique,
Oui, elle a fait une grande école.
Elle a fait la meilleure.
Voilà. En étant une pupille de la nation, en partant de là. Ouais. Donc,
D'ailleurs, j'étais dans un petit milieu tout modeste et que j'étais une petite fille. Et du coup, j'ai fait des sciences parce que ça avait un côté rassurant. C'est non, les sciences. Et ça l'a menée tout en haut. Hein. Elle a dit ça hier au Mureau.
Reste à savoir si ce sera suffisant pour parfois faire fléchir Emmanuel Macron sur certains sujets. Encore une fois, on l'a dit, en cette période particulière, dernier mandat pour lui, la succession à la fin possible, et puis une possible contestation, crise sociale, manifestation, parce qu'elle est présentée souvent comme la femme qui fait passer les réformes que personne d'autre n'aurait pu faire passer.
Eh bien justement, je vous propose qu'on écoute la réaction de deux syndicalistes qui ont ferraillé avec Elisabeth Borne lors de la réforme de la SNCF et de la réforme... lors de la réforme de la SNCF, vous allez voir, c'est exactement... Elle dit, un, elle recule devant rien, et puis deux, surtout, comme elle connaît, maîtrise parfaitement ses dossiers, en gros, on ne peut pas l'entourlouper. On écoute ces deux réactions.
Le souvenir de quelqu'un d'assez franc, d'assez direct, qui connaît bien ses dossiers, mais qui ne cède jamais aucun pouce de terrain sur les sujets que nous avons eus en débat.
Dur en affaires.
Oui, dur en affaires, mais nous, on n'est pas commode non plus.
Sur les dossiers de la réforme du ferroviaire, il y a eu des discussions, des négociations, mais in fine, pas de concession.
Elle est quand même, Ève Roger, à écouter ces deux syndicalistes, mais un peu de l'école Alain Juppé.
Droit dans ses bottes.
Oui, c'est ce que j'allais dire, droit dans ses bottes. Est-ce que ça peut nous annoncer quand même une rentrée sociale chaude?
Alors, ce qu'on comprend, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'à la fois, elle écoute beaucoup. Donc, écouter, c'est quand même la moitié du chemin.
D'accord.
Et beaucoup, longtemps, avec intérêt, comme elle connaît bien les dossiers, sans doute que la conversation est intéressante et constructive. Bon, et puis, il y a la deuxième partie où il faut décider. Il faut arbitrer. Et donc, maintenant, la question de la réforme des retraites, c'est vrai que pour l'instant, on est encore un petit peu dans le flou, à la fois sur le timing. Est-ce que ça va être tout de suite maintenant, après l'élection, à la rentrée? Certains, dans la Macronie, disent qu'il vaut mieux attendre un peu, peut-être c'est pas le moment de mettre le feu dans la rue, même à la rentrée. Donc pour l'instant, c'est encore un peu flou, la méthode aussi. Est-ce qu'il va y avoir une grande conférence sociale comme ça a été annoncé avant, pendant la campagne électorale, pendant l'été, où là il y aura cette période de discussion? Est-ce que ça va se passer autrement? Est-ce que les Français vont être mêlés à cette conversation? Parce qu'il faut quand même pas oublier que tous les syndicats sont contre, tous les Français sont contre. Donc il y a un moment, il va falloir, et on imagine à l'Assemblée, comme je vous le disais tout à l'heure, comment l'ambiance que ça va être à l'Assemblée. Donc effectivement, je pense qu'il est possible qu'ils prennent du temps avec Elisabeth Borne, avec le ministre concerné, pour savoir comment mener à bien cette réforme.
Nathalie Saint-Cricq, elle va devoir donc animer le social et l'écologie. C'est un peu l'eau et le feu, ça. Elle va être vraiment confrontée à Matignon de façon très concrète à la fameuse contradiction entre la fin du mois...
Et la fin du monde.
Et la fin du monde.
Oui, mais c'est pas une idée baroque. C'est-à-dire, je veux dire, dans le gouvernement allemand, il y a un certain nombre de ministres qui ont des pôles associés, qui ont l'air d'être des pôles. Si on considère que l'écologie doit être transverse, c'est-à-dire qu'il y a une façon dans l'industrie, dans le travail, il y a une façon dans tout de le traiter de façon écologique, c'est assez cohérent que ça remonte jusqu'au Premier ministre.
Ne plus le cantonner à,
oui, parce
à une matière à part.
C'est si, effectivement, ça doit déterminer le moindre choix, et que ça doit être une chose présente à l'esprit, c'est dans la structuration du gouvernement. Comme ça, il y a une forme de cohérence. Donc ça, je pense que c'est pas du tout une bêtise, au contraire, dans le redécoupage. Et c'est effectivement, Emmanuel Macron a annoncé, je pense que c'est assez cohérent, que ce soit à Bercy, tout sera passé au crible de l'écologie.
Encore faut-il qu'elle gagne les élections le Calvados, ça devrait être facile.
Franchement,
c'est l'expression du moment, ça va passer crème.
Ça va passer crème.
Oui, je sais pas pourquoi. Oui.
C'est tout le monde dit
non,
ça.
Non, la circo, elle est très bonne.
Encore faut-il qu'elle ait une majorité de députés macronistes à l'Assemblée nationale, ça va passer crème, ça aussi.
A priori, enfin,
je reprends votre expression.
Oui, ouais. C'est ça. Les derniers sondages donnent quand même une majorité autour de 300 députés, entre 280.
La majorité est à 289. Hein.
Alors 300 députés, voilà pour les macronistes. 170, je vous l'ai dit, à peu près pour l'aile gauche, et puis 50-60 pour le Rassemblement national. Donc, ce qui se dessine, et puis on sait que les Français participent assez peu aux élections législatives, il y a une abstention autour de 50%, donc ce qui se dessine, c'est une majorité pour la majorité d'Emmanuel Macron, et puis la première opposition dans le groupe de la NUP.
Alors justement, le groupe de la NUP qui voit bien Jean-Luc Mélenchon propulsé à Matignon à l'occasion de ces élections législatives. Je vous propose d'écouter Adrien Quatennens qui a expliqué le cheminement qui pourrait permettre à Matignon d'accéder à Matignon. Jean-Luc Mélenchon d'accéder à Matignon. On écoute.
Les 12 et 19 juin,
oui,
il y a des élections
577.
Dont le but n'est pas de conférer une majorité au président de la République. C'est ce qui se passe habituellement, c'est vrai. Souvent, le président élu a une majorité. Sauf que là, on est dans une situation où Emmanuel Macron a été élu à la faveur d'un second tour face à l'extrême droite, je le dis par défaut. Et donc, je dis à celles et ceux qui nous écoutent, si vous avez souhaité la retraite à 60 ans, si vous avez souhaité le blocage des prix, la planification écologique, l'augmentation du SMIC, et que vous pensiez qu'avec l'élection présidentielle, tout était terminé, ce n'est pas vrai.
Vous avez une autre chance.
Les 12 et 19 juin, si vous élisez des députés issus de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, si nous avons une majorité, eh bien, Mme Borne va pouvoir ranger ses cartons et son passage à Matignon aura été très court parce que c'est Jean-Luc Mélenchon qui sera Premier ministre et on appliquera un autre programme. Mais si par exemple, on
croit. Bon, vous n'avez pas l'air d'y croire. Mais c'est un slogan qui...
Alors ça marche parce que je vais vous donner un exemple personnel. J'ai ma fille qui a une vingtaine d'années et ses amis. Quand je leur ai dit c'est Elisabeth Borne qui est Premier ministre, elle me dit c'est pas Jean-Luc Mélenchon. Ah ouais. Donc je me dis si mes filles...
Filles de journalistes très bien informées.
Absolument.
Enfin, et de pas deux. Très...
Ah oui, c'est vrai.
Si mes filles croient ça, ça veut dire qu'il y a quand même sans doute beaucoup de personnes en France qui croient que Jean-Luc Mélenchon va être...
Il a fait un bon storytelling, comme on dit en marketing. Il a raconté une histoire qui permet d'inciter un enthousiasme.
Il a agi avec une habileté assez époustouflante.
En revanche, ce qu'il va à coup sûr gagner, c'est le statut de premier opposant à la tête de la NUP, comme on dit.
C'est ça. Et c'est assez fort parce que, on l'a dit, on se passionne rarement pour les législatives, à part les journalistes, mais sinon, il y a rarement un élan, un enthousiasme. Là, cette fois-ci, il a réussi à le susciter un petit peu, notamment chez les jeunes, on le voit. Il y a un intérêt pour ce mouvement qui était appelé de leur vœu pendant longtemps, c'est-à-dire que le peuple de gauche ne voulait qu'une force en présence, et c'était à chaque fois « réconciliez-vous, faites une alliance, proposez quelque chose, vous ne pouvez pas être divisés, sinon vous n'accéderez pas au pouvoir ». Bon, pas dit qu'il accède...
Mais là, oui, mais il dresse cette perspective.
Autant, mais c'est cette perspective autour de laquelle peuvent se cristalliser, alors peut-être pas toujours des espoirs, mais au moins la perspective d'une opposition qui puisse être à peu près crédible et peut-être plus nombreuse qu'elle ne l'a été, plus forte lors du précédent quinquennat. Néanmoins, le système est fait pour que... ça ne reste qu'une force stérile, comme l'a été à une époque le fameux bloc gaulliste et le bloc national, etc. C'est-à-dire cette force stérile qui n'accouche de rien parce qu'elle est bloquée par le jeu, le jeu politique.
Bon, vous n'avez pas l'air d'y croire.
Je crois qu'un, comme vous le disiez, il a fait un coup de prestidigitation, ça. Pour le coup, c'est
Gérard Majax.
C'est-à-dire qu'il a occupé le terrain qui n'était pas occupé en se déclarant comme si on élisait un Premier ministre, truc qu'on n'a jamais vu. Donc, dans l'entre-deux-tours. Après, il a occupé le terrain partout. Il a laissé entendre à tout le monde que c'était possible. Tout le monde a fait semblant d'y croire. Les Verts et les socialistes ont fait semblant de croire que ce qu'ils pouvaient gagner, ce qui justifiait qu'ils signent un accord où ils étaient perdants-perdants, perdants sur le programme, perdants sur les circonscriptions. Et ils se sont couchés, si j'ose dire, devant la statue de Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon a continué à entretenir cette espèce de fantasme qui pouvait être Premier ministre. Alors, un, il ne le sera pas. Deux, premier opposant, quand on n'est pas candidat et qu'on n'est pas député, il va falloir m'expliquer d'où on parle et comment, parce qu'il peut faire des médias, et Dieu sait s'il en fait, il peut faire des conférences.
Il ne sera plus à l'Assemblée nationale.
Il ne sera plus à l'Assemblée nationale. Or, l'Assemblée nationale, quand on a un groupe, c'est quand même un endroit où on a une tribune, on a du temps de parole obligatoire, on peut faire des discours, on peut s'opposer. Là, je ne sais pas où il sera. Et in fine, moi, je pense que les projections des sondeurs en siège sont largement surestimées par rapport à ce qui risque de se passer.
Vous ne croyez pas aux 170 ?
Je ne crois pas aux 170. Je crois que ça sera... ils seront nombreux, évidemment. Ils ne seront pas comme actuellement. Mais quand on regarde de plus près, c'est, à mon avis, la fourchette très, 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 très haute qui est annoncée.
D'autant que premier couac au sein de la NUP, c'est la question du burkini qui divise au sein de la gauche. Alors avant d'en parler, je vous propose tout simplement même d'aller voir à Grenoble, parce que là-bas aussi, à Grenoble, la question du burkini divise au sein de l'équipe municipale et elle divise bien évidemment au sein des Grenoblois, sujet de Nabila Tabouri.
Qui vote pour ?
29 voix pour, 27 contre. Le conseil municipal de Grenoble était consulté sur l'autorisation du port du burkini.
Cette délibération est adoptée.
Les militants de l'association Alliance Citoyenne, qui ont porté le débat depuis des mois, exultent.
On fait un tunnel, donc là on s'arrête.
Pourtant, ça veut dire que maintenant j'ai accès à la piscine. Ça fait 10 ans que je ne suis pas allée à la piscine. Cet été, je vais pouvoir y aller. C'est incroyable.
Et c'est une question de liberté de choix, en fait. D'avoir la liberté de pouvoir se vêtir comme on veut et d'avoir accès aux lieux et à l'espace public.
Deux heures d'âpres discussions. Éric Piolle, le maire écologiste, a fait face à l'opposition, mais aussi à certains membres de sa propre majorité. Cette maire adjointe a voté contre.
Tout le travail et tous les combats qui ont été menés pour avoir des acquis pour les femmes, et ben nous avons le sentiment qu'on revient en arrière.
Devant cette piscine grenobloise, les avis sont partagés.
Une sorte de retournement du concept d'égalité. On dit que ces femmes-là ne pourront pas aller à la piscine. Bah, si, elles respectent tout simplement le fait d'aller à la piscine en maillot de bain.
À la piscine ici, je n'ai pas le droit de mettre un maillot anti-UV ni un maillot short. Je me dis, mais laissez-nous mettre un maillot qu'on veut.
Pour contester cette mesure, qui devrait entrer en vigueur le 1er juin, le préfet a annoncé vouloir déposer un recours devant le tribunal administratif.
Et évidemment, à l'approche des législatives, cette affaire prend une dimension nationale. Je vous propose d'écouter Laurence Rossignol, vice-présidente socialiste du Sénat et ancienne ministre de la Famille de François Hollande, vent debout contre cette autorisation du burkini à la piscine. Écoutez ce qu'elle pense d'Éric Piolle, le maire de Grenoble.
Mais quel crétin! À tout point de vue, comme ça. Ah mais bien sûr. D'habitude, on dit que l'extrême droite apporte dans les campagnes électorales le burkini, la burqa, le voile, le foulard, et on pense que ça pollue le débat politique. Eh bien, cette fois-ci, ça vient pas de l'extrême droite, ça vient d'un maire écolo de Grenoble.
Bon, Roger, il a semé la zizanie, Éric Piolle, au sein de la NUP, là, il met en danger l'édifice.
Le timing est spécial, c'est-à-dire pourquoi mettre ça, le burkini, au moment des législatives, c'est-à-dire que tous les électeurs de centre-gauche qui hésitaient entre la NUP et la majorité, là, ça va faire des bataillons qui vont partir plutôt vers Emmanuel Macron. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est quand même que derrière ce burkini, il y a une association qui s'appelle Alliance Citoyenne, dont l'objectif est le communautarisme et de mettre dans le débat public les sujets les plus clivants qui soit, c'est-à-dire non seulement le burkini, mais aussi le foulard pour les femmes qui jouent au foot, les hijabeuses. Il faut savoir que dans cette fameuse équipe de foot, il y a des femmes qui n'ont jamais touché un ballon de leur vie. Donc c'est une instrumentalisation du sujet pour mettre ce sujet-là dans le débat public et mettre la zizanie et montrer qu'il y a moyen. Donc les élus, comment ils réagissent? Et ceux qui sont très au clair avec la laïcité, ils disent « no way, jamais chez moi ». Et il y en a un certain nombre. Mais il y en a d'autres, comme Éric Piolle, où il y a quand même un ex-membre de cette association qui est membre de son conseil municipal, enfin de sa majorité. Ah ouais. Donc, et les autres, ils demandent, ils tirent la sonnette d'alarme en disant « aidez-nous, l'Association des maires de France demande à la justice, au tribunal administratif, au Conseil d'État, de les aider parce qu'ils ont besoin d'aide pour soutenir. Effectivement, la question, c'est même pas de savoir si c'est un maillot de bain ou pas un maillot de bain. La question, c'est de savoir comment lutter contre les offensives séparatistes de certaines associations.
Nathalie Saint-Cricq, cette question, la laïcité, on sent qu'elle va empoisonner la gauche. Et, d'ailleurs, elle le dit dans cette interview, Laurence Rossignol, elle dit que c'est un sujet qu'on n'a pas purgé à gauche, qu'on n'a pas réglé, qu'on met sous le tapis. Quoi.
Et puis, c'est pas la NUPS qui va nous donner l'occasion de purger le truc. Parce que, franchement, on a effectivement ce qu'avait dit Valls à une époque en parlant des deux gauches
irréconciliables. Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a deux visions. Une vision non pas militante de la laïcité.
Républicaine.
Parce que c'est insupportable d'entendre les laïcars. Ouais. Ou d'entendre l'intégrisme laïque. Bon. Voilà, très bien. Et puis de l'autre côté, des gens qui considèrent qu'il n'y a pas de problème. On en entend, c'est leur droit de considérer qu'entre le burkini et un piercing, c'est finalement une tenue vestimentaire. Quand j'entends Éric Piolle nous raconter que c'est au nom de la liberté des femmes qu'on autorise le burkini, je me demande de qui on se moque. Je trouve que personne n'a soulevé le sujet des petites filles ou des jeunes filles de 12, 13, 14 ans qui voudraient absolument pas s'habiller avec un burkini ou quoi que ce soit et à qui on dirait, puisque c'est autorisé, t'as qu'à le mettre pour... Voilà. Donc, si vous voulez, il y a effectivement deux gauches et les Verts sont coupés en deux. Le Parti socialiste est à peu près deux tiers, un tiers.
Deux tiers laïcs,
un tiers. Et c'est ceux qui ont mené les négociations avec la NUPES. Et puis, en gros, chez Jean-Luc Mélenchon, il y a une grosse évolution dans les 15 dernières années, puisque Jean-Luc Mélenchon était un laïc militant.
Troisième République.
Et puis, considérant probablement, soit parce qu'il a changé d'avis, soit parce qu'il a considéré que le vote où le vivier qui pouvait lui voter pour lui se déplaçait, non plus une classe ouvrière, mais de plus en plus des gens d'origine étrangère, je ne sais pas comment dire. En tout cas, les études qu'il y a, même si on n'a pas trop le droit de le faire, sur le vote musulman...
Si, ont été faits. Ouais. Les trois quarts des Français sont contre le burkini, mais si vous interrogez les Français de confession musulmane, ils sont pour aux trois quarts.
Voilà.
Donc les Français, il y a vraiment deux...
Jean-Luc Mélenchon...
C'est un sujet clivant. Hein.
Jean-Luc Mélenchon va se chercher ce vote.
Va chercher le vote musulman, confession musulmane. Ouais.
Donc à partir de là, il y a ce genre de débat, et puis il y a des gens qui croient profondément qu'il n'y a pas de problème. Enfin, c'est leur droit en plus. Mais je trouve que sortir ce débat-là... Alors, autant c'était ridicule d'être hystérique sur le burkini à la plage, parce que la plage, c'est un endroit, un espace public. Tout le monde a le droit d'aller à la plage, d'aller se baigner. Donc, on peut s'habiller, on peut aller se baigner avec un pull à col roulé. Enfin, je veux dire, c'est totalement secondaire. Autant on peut considérer que dans l'espace une piscine, ce n'est pas la même chose. Et que dans ces cas-là, on doit avoir un certain nombre de règles. Je rajoute quand même, contre ce que je viens de dire, c'est qu'à Rennes, par exemple, il y a une deuxième ville dont j'ai oublié le nom, dans laquelle l'arrêté municipal permet tous les vêtements, puisque sauf pour des mises en hygiène, on n'a pas le droit de faire autrement, et qu'en gros, à Rennes, ils ont un burkini par an et que les choses se passent correctement. Mais il faut quand même faire attention, parce que comme le disait Eve, il y a une forme d'entrisme dans l'Alliance citoyenne, et puis ils vont prendre ça, et puis au bout d'un moment... On va être, avec notre mauvaise conscience post-coloniale, on va être dans un... encerclé.
Rachel Binas, certains en Parti Socialiste se disent que quand même, ça les gêne, cette approche communautaire, en tous les cas, de Jean-Luc Mélenchon, dont on soupçonne d'aller chercher le vote de confession musulmane. Hein.
Ceci dit, pas sûr que Éric Piolle ait pensé en termes d'agenda politique législatif. Si vous voulez, le burkini...
Ah ouais, pour lui, c'est un hasard.
Le burkini, depuis 2016-2017, c'est un peu le marronnier qui annonce l'été, qui annonce le retour des beaux jours. On l'a forcément au menu, au programme, depuis un certain nombre d'années. Donc, je ne suis pas certaine qu'il ait réfléchi en termes de stratégie électorale pour les législatives, pour ses propres intérêts, très certainement. Très certainement, puisque ces justifications n'ont aucun sens, vraiment, ça ne tient pas. Ça nous renvoie à quoi ? Au rapport homme-femme, au rapport aussi au corps, et à la pudeur et l'impudeur. Qu'est-ce que ça dit implicitement ? Que celles qui, justement, ne porteraient pas cet habit intégral seraient des femmes de petite vertu, qui, justement, se montrent trop, s'exposent trop. Même, il faut se souvenir, même au moment de la mixité, de la non-mixité à l'école, la mixité... On n'invisibilisait pas le corps des femmes. Et là, c'est ce qu'on fait. C'est qu'elle n'existe plus. Son corps n'est plus et doit être caché. Donc, c'est tout ça que ça questionne, qui n'est pas la tradition, la culture française, et qui, en fait, ne l'est pas plus dans les pays dits musulmans, puisqu'on ne retrouve pas de traces du burkini dans les années, 70, 80, 90, loin de là. Et donc, il met à l'agenda ce sujet-là, qui est demandé par un certain nombre d'associations militantes. Et en effet, ça vient réveiller deux visions à gauche qui s'affrontent, l'une républicaine, laïque, universaliste, pour faire vite, et puis une autre communautaire qui cède parfois aux diktats, aux demandes de minorités, avec un vernis, celui de la liberté.
Sur le terrain, chez les socialistes, ça tangue un peu, Nathalie Saint-Cricq, il y en a certains qui se disent... Qu'est-ce qu'on est allé faire cette alliance avec la NUP ? Moi, en plus, on me demande de sacrifier parce qu'on me parachute un protégé de Mélenchon dans ma circonscription.
Oui, il y en a qui cèdent d'ailleurs. Comme la
Il y a des regrets chez les socialistes, au fond,
Ceux qui ont signé ne sont pas ceux qui regrettent. Ceux qui ont signé sont ceux qui vont en profiter.
Et il y aura beaucoup de dissidents, alors ?
Alors, des dissidents, il va y en avoir probablement moins que ce que certains... certains rebelles espéraient, les rebelles étant François Hollande en chef rebelle, Bernard Cazeneuve, mais lui qui a assez rebellé, mais en partant, des gens comme Carole Delga, bien sûr, qui organisent une dissidence méthodique, mais bien organisée, c'est en finançant. Parce que vous savez, quand vous êtes dissident, vous avez un problème d'argent. C'est-à-dire qu'en gros, vous n'avez pas les financements du parti. C'est ça. Donc, c'est d'une certaine manière, il faut avoir un trésor de guerre, un peu. Donc là, il y a les radicaux qui vont aider pour le trésor de guerre. Et il y a bien des socialistes qui... Alors, je ne sais pas ce que pensent les militants. Manifestement, dans les sondages, il y a eu une espèce de...
d'enthousiasme pour l'Union.
D'enthousiasme, oui, en se disant, mais si par hasard on pouvait gagner pour une fois, mais bon. Mm-hmm. Après, j'entendais ce matin à la radio quelqu'un qui disait, on a réussi à faire en 10 jours ce que d'autres n'ont pas réussi à faire en des années. Bah ouais, à partir du moment où on se met d'accord, alors qu'on est absolument d'accord sur rien, c'est sûr que ça va plus vite. Donc,
François Hollande, on a appris aujourd'hui qu'il ne se représenterait pas. Parce que c'était un peu, c'est assez drôle, parce qu'en fait, ils ont mis en face de lui, dans sa circonscription,
ils ont mis un nup.
Un nup. Donc, c'est quand même un peu embêtant. Et puis, s'il se retrouve, à quel groupe? Il peut pas s'inscrire à la nup. Donc, s'il y a plus de groupe socialiste, donc il va se retrouver, ce que je lisais ce matin dans cette petite lettre à l'infolette qui s'appelle Playbook, à côté d'Éric Zemmour. Donc c'était un peu embêtant, donc c'était un peu gênant. Donc à ce moment-là,
il jette l'éponge.
Dans la négociation, le nombre de circonscriptions qui a été donné dans l'aimable bonne volonté de Jean-Luc Mélenchon et de ses pairs, c'est ridicule. Ils ont eu droit à 50 circos et encore dont un tiers n'est pas. Voilà, alors, ils voulaient tous un groupe 15. Voilà. Il faut être 15. Ouais. Et les 1% dans 50. Circonscription, on voit au premier tour pour pouvoir avoir un financement public. Voilà. Donc là-dessus, tout le monde s'est mis
d'accord. L'argent et le groupe. Voilà.
Alors, le Parti Socialiste s'est donc fait phagocyter par Jean-Luc Mélenchon. En revanche, concernant l'autre grand parti de gouvernement, à savoir les LR, finalement, malgré le départ de Damien Abad, je vous propose d'écouter Christian Jacob qui se félicitait de ce qu'il y ait eu finalement assez peu de départs. On l'écoute, il était hier invité de France Info.
Souvenez-vous, on nous annonçait une soixantaine de députés qui allaient rejoindre la majorité présidentielle. Après de 60, on est passé à 40. De 40, on est passé à 30, à 10. Et bon, là, il y en a 3. Peut-être que ça finira à 4 ou à 5.
Bon, alors, comment se présentent ces élections pour les Républicains, finalement?
L'idée, c'est quand même de sauver les meubles. Donc, on est parti sur un groupe à 101 députés LR. Et là, aujourd'hui, alors, les sondages... aujourd'hui donne peut-être entre une cinquantaine, 50-70. Donc ça serait moins catastrophique que le 4,8 ou 4,9 de Valérie Pécresse à la présidentielle. Et c'est vrai que finalement, ce grand mouvement qui a été lancé à l'appel de Nicolas Sarkozy quand même, à un moment, ce grand mouvement n'a pas eu lieu, cette grande migration n'a pas eu lieu. Et ça a créé au contraire, je pense, un réflexe de défense à l'intérieur des LR dans la nouvelle génération. C'est-à-dire que ça a mis au jour une différence générationnelle au sein des LR. Aurélien Pradier, Julien Aubert, enfin tous ces jeunes députés disent « Bon, le sarkozisme, c'est terminé, regardez là où il nous mène. Maintenant, on va prendre le pouvoir et on va rester nous-mêmes. » Donc c'est intéressant parce que Nicolas Sarkozy a montré les dissensions au sein même des LR.
Ça veut dire, Rachel Binas, que les LR, c'est une force d'opposition. Parce qu'on n'a jamais compris quel était leur positionnement face aux macronistes. Si c'était l'opposition... de la coalition, de...
Même eux, ne l'ont pas compris. Même eux se sont cherchés, ils continuent pour certains certainement de se chercher. En effet, il n'y a pas eu de saignée. Et pour le moment, comme vous l'avez bien dit, ils sauvent les meubles, ils gardent la tête haute. Ouais. Ils ont voulu conserver, contrairement au PS, leur autonomie, leur indépendance, quitte à perdre un certain nombre de sièges à l'Assemblée. C'est peut-être la base d'un nouveau travail qu'ils vont pouvoir mener, de reconstruction, c'est-à-dire l'objectif pour répondre à votre question, de ne pas laisser le monopole de la droite à La République En Marche et d'arriver à établir une vision, une ligne politique qui, justement, puisse se distinguer, par exemple, un peu plus conservatrice sur les idées dites sociétales, comme on dit, puisse se distinguer de La République En Marche. Mais là, le travail va commencer. Le travail qu'ils n'ont pas fait depuis un certain nombre d'années, c'est maintenant qu'ils vont devoir l'entamer.
Reconstruction autour de qui, puisque Christian Jacob va quitter la présidence de LR, et avec quel positionnement, Nathalie Saint-Cricq, on parle de Laurent Wauquiez.
Laurent Wauquiez, ce serait très intéressant de savoir ce qu'il vise. Alors, il vise la présidentielle, c'est sûr, ça on le sait tous. Après, est-ce que ça passe par la reprise du parti? Je suis pas persuadé qu'il en soit convaincu. Alors, il y a les jeunes, là, vous disiez, c'est effectivement les jeunes qui, eux, ont le temps devant eux, par définition. C'est-à-dire qu'ils ne calculent pas à l'aune d'un quinquennat en voyant les choses plus tard. Moi, je pense que ça va prendre énormément de temps. Et je pense que de toute façon, il y a un avenir qui est très obscurci par Édouard Philippe. C'est-à-dire que refaire quelque chose à droite, repenser quelque chose à droite quand on a le Rassemblement national. Alors, vous me direz que Reconquête, ça a tombé. Mais l'esprit de Reconquête, c'est de voir. Donc, si vous êtes entre une droite extrême, qui est quand même assez forte en France, parce que je sais que Jean-Luc Mélenchon, toujours Gérard Ajax, nous a fait croire qu'il était arrivé en deux, mais il est quand même arrivé avec 7,7 millions de voix, quand Marine Le Pen en a fait 13 millions. Donc il y a quand même quasiment le double de gens qui ont voté pour l'extrême droite. Entre cette extrême droite et un Édouard Philippe qui va essayer de garder sa ligne libérale de droite et tout, je pense que le chemin va être assez difficile pour la droite dite républicaine et classique pour la prochaine fois. Voilà.
Valérie Pécresse. Alors d'abord, elle a eu ce tweet très aimable à l'endroit d'Elisabeth Borne. Elle a incontestablement le parcours d'engagement nécessaire pour devenir la deuxième femme première ministre de notre pays. Je lui souhaite le meilleur pour la France. C'est quoi ? C'est le panache d'une femme intelligente ? Ou bien c'est ce qu'on lui reproche depuis le début ? C'est qu'elle est macroniste au fond de sa tête. C'est ce qu'on lui reproche à droite.
J'imagine que comme toute vérité, la vérité est toujours un peu au milieu de tout ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une solidarité féminine aussi, puisqu'elle a quand même beaucoup souffert de ce machisme, sexisme Valérie Pécresse. Donc je pense qu'elle souligne ça et qu'elle dit à quel point... On peut être... La sororité existe, entre les femmes. Et puis, je pense qu'elle n'a plus rien à perdre, elle non plus. C'est-à-dire que, à part de l'argent, il y a encore son problème d'argent qui reste encore 1 million d'euros à trouver sur son patrimoine personnel. Donc, c'est pas facile. Et puis, elle essaie de se relancer à la région Île-de-France. Donc, je pense qu'elle a plutôt parlé avec sincérité plutôt qu'en termes de calcul politique.
Voilà, bah écoutez, il n'y a plus qu'à attendre la nomination du gouvernement.
Oui, il n'y a plus qu'à, oui.
Il n'y a plus qu'à.
Moi, on sait que ça, on a l'habitude. On va pouvoir passer un bon week-end parce que ça sera avant, donc.
Voilà, donc ça sera cet après-midi. Et ce sera bien sûr en direct sur France Info. C'est dire s'il ne faut plus que jamais rester sur la chaîne toute la journée. Nous, on se retrouve lundi pour une nouvelle émission. On débriefera bien sûr le nouveau gouvernement. Bonne journée, bon week-end et bon nouveau gouvernement sur France Info.